psychanalyse, vous savez qu'on parle d'inconscient. Alors, je vous ai fait, d'abord, je vous ai mis au tableau les points essentiels que nous pourrions travailler, si vous êtes d'accord. Donc, qu'est-ce que l'inconscient? Le développement psychogénétique. L'inconscient est structuré comme un langage. Comment lire un inconscient? Donc, plusieurs grilles de lecture possibles. Le langage, bien sûr, le rêve, le dessin, l'écriture, au travers de phonèmes et de morphèmes. Ce n'est pas, vous le verrez, de la graphologie. Hein, je n'ai pas de formation en graphologie. Et bien sûr, donc, la psychogénéalogie, qu'on rencontre maintenant sous l'appellation de génosociogramme, mais qui, en fait, s'étaye donc sur les névroses de destinée, les névroses familiales, donc les compulsions de répétition, que les lacaniens appellent maintenant plus précisément les invariants. Et donc, bien savoir, c'est quand même des sens psychanalytiques, malgré certains auteurs qui, actuellement, cherchent à récupérer une paternité. Mais effectivement, on reste quand même donc dans un axe très psychanalytique. Alors, Inconscient et destin, c'est le titre d'un ouvrage célèbre de Françoise Dolto. Alors, on l'a pas trop plagié. On va essayer de laisser ça donc sous forme d'interrogation, un couple légitime. Donc, on essaiera de travailler autour de cela, si vous êtes d'accord. Alors, un inconscient, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de dire, à la fois, c'est la partie la plus intime de l'individu, et c'est celle que nous méconnaissons le plus, à moins d'avoir fait un travail sur soi. Je prends toujours les mêmes exemples primaires. On décide de faire un régime alimentaire, parce qu'on estime qu'on a quelques kilos à perdre. Le médecin s'en est peut-être même mêlé en nous le conseillant. On est plein de bonnes intentions, on achète tout ce qu'il faut, et on n'arrive pas à respecter, donc, effectivement, une conduite alimentaire prescrite. Donc, ce qui prouve bien que les leviers de commande se situent ailleurs, se situent effectivement dans un espace psychique relativement inaccessible à la conscience. Souvent, on le voit, il y a des parents qui nous disent « Oh, mon enfant ne veut pas travailler, il est paresseux, il n'a pas de volonté ». Il y a une raison. Donc, effectivement, en psychanalyse, au niveau de l'inconscient, on travaille sur la cause. Les faits, nous étayons dessus, bien sûr. C'est ce qu'on pourrait, vous le verrez d'ailleurs si on a le temps de s'y attarder, c'est ce qu'on pourra appeler le langage, on pourrait dire la façon dont nous exprimons cette langue dite maternelle. On pourra peut-être aussi passer par le fait qu'elle n'est pas uniquement maternelle. Et en analyse, surtout si on est lacanien, on travaille essentiellement sur ce qu'on appelle donc le discours. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, en ce qui concerne Xavier et moi-même, donc nous sommes psychanalystes, mais de formation linguistique et philosophique, et donc pas médicale. C'est-à-dire qu'en fait, en guidance de cure, on ne s'attaque pas aux symptômes. Au contraire, on en fait un allié. On le verra aussi, je pense, le symptôme est parlant, hein, bien sûr. C'est le signifié. Nous travaillons donc, si on est lacanien, sur le signifiant, donc encore une fois, sur cette partie méconnue de l'individu. Alors, je vous ai fait un schéma qui n'a strictement aucune valeur psychanalytique dans sa présentation. Vous avez donc là résumé de façon très simpliste le départ des travaux freudiens. Donc, Freud s'est rendu compte, notamment en 1900, donc date à laquelle il a postulé donc ses premiers travaux, il y avait un conscient. Vous pourriez me dire, je suis venu en train, en avion, en voiture, etc. Je parle, hein, je suis un être parlant, effectivement. Cette partie donc méconnue, a priori, de l'individu, donc, qui est l'inconscient, et qui est donc séparée du conscient par une espèce de couloir qui est donc appelé le préconscient. Donc, premiers travaux de Freud, 1900, les travaux donc sur la première topique. Si j'oublie le prénom de ma meilleure amie, même quelques instants, on dit qu'il y a refoulement. C'est-à-dire que ce barrage se verrouille. C'est donc ce qu'on appelle aussi l'acte manqué. Et dans notre jargon professionnel, ça porte un nom qui est la scotomisation. C'est-à-dire que si j'oublie un nom, si j'oublie une date, eh bien on va dire que je scotomise. Et on sait qu'il y a une résistance. Une séance analytique bien menée fait qu'il va y avoir levé de la résistance et son opposé est appelé l'abréaction. C'est-à-dire que nous avons effectivement une lutte inconsciente entre deux instances là que je vais vous expliquer sommairement, donc le ça et le surmoi, et cette lutte inconsciente donc qui génère de la résistance, s'appelle le complexe. Donc là, on va aller voir donc, au niveau de l'inconscience ce qui se passe. Nous sommes des êtres de plaisir, et donc Freud a appelé cette instance de plaisir débridé le ça. Il a d'ailleurs dit au commencement était le ça. On sait que le petit homme, effectivement, quand il vient au monde, découvre très rapidement, après le traumatisme de la naissance, que sucer a quelque chose déjà d'érotique. Hein. C'est donc une pulsion dite psychosexuelle. Ce n'est pas encore directement, effectivement, la sexualité telle qu'on peut l'entendre à l'âge adulte. Mais c'est vrai que l'être humain donc, est un être de plaisir. Il va très vite se heurter, donc cet inconscient, au surmoi qui est un censeur. Ça peut même être dès le départ de la vie, c'est-à-dire que un bébé a envie de rester au sein ou a envie d'avoir une ration de lait plus importante. La mère estime à juste titre que c'est suffisant. Elle va s'opposer donc à ce qu'on pourra appeler de la jouissance d'ailleurs, plus que du désir, parce qu'en fait, c'est pas du tout construit à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une immaturité pulsionnelle qui est très grande. Et donc, le surmoi, donc en véritable arbitre, pas toujours juste, hein, puisqu'en fait, il répond aussi à des schémas d'éducation qui sont très souvent basés sur des interdits qui peuvent être discutables finalement et qui sont souvent liés d'ailleurs à des peurs transgénérationnelles. Je pense qu'on le verra avec Xavier tout à l'heure. Mais effectivement, donc il va y avoir une espèce de conflit un petit peu permanent. Alors, dans la journée, on peut être fatigué, ou on peut se fouler la cheville, ou on peut avoir la grippe, etc. Eh bien, on sait analytiquement parlant, effectivement, qu'il y a donc une lutte entre le ça et le surmoi. Donc, qui en fait les frais, c'est le moi, ou soma, c'est-à-dire effectivement le corps. Donc, la somatisation découle de cette lutte, et Freud donc a expliqué que le symptôme était l'extériorisation d'un conflit interne. On sera peut-être amené d'ailleurs à travailler sur les couples d'opposés, puisque c'est quelque chose qui est très important donc, dans l'approche de la cure analytique. Le petit homme, au départ, a rencontré un rapport de contenant-contenu, et puis du dedans, il est passé au dehors, et puis très vite, il a rencontré le plus grand, le plus petit, le plus fort, le plus faible, etc. Donc effectivement, des rapports de dominant à dominé, ce qui nous fait souffrir, donc effectivement tous les complexes d'infériorité ou de supériorité, ce qui revient à peu près à la même chose, s'origine effectivement dans cette lutte qui nous fait rencontrer donc des couples d'opposés. Voilà, donc c'est une présentation sommaire. En ce qui concerne ce que je ne vous ai pas dit, en ce qui concerne donc les travaux sur le ça, le surmoi et le moi, si ça vous intéresse, sont des travaux donc qui ont été postulés 20 ans plus tard, en 1920, et que Freud donc a appelé les travaux sur la deuxième ou sur les deuxièmes topics. Il serait peut-être intéressant que rapidement je vous explique aussi ce qu'est une cure analytique. Donc la cure analytique, bien sûr, travaille sur l'inconscient. Nous voyons arriver en règle générale deux grands profils de patients. Donc les névrosés, effectivement, ça peut aller de simples angoisses à des conduites d'échec, donc à des souffrances d'ailleurs, très souvent, qu'on arrive mal à identifier, parce qu'on peut rester globalement honnête avec soi-même, sans trop se plaindre, se dire finalement je me plains, je me demande bien pourquoi, parce que bon, j'ai un toit, j'ai une famille, j'ai un travail, pourtant ça ne va pas. Donc la névrose n'est pas fatalement quelque chose de terrifiant. Donc la névrose est effectivement l'aboutissement tout à fait négatif donc d'une lutte perpétuelle entre le ça et le surmoi, et donc un surmoi qui finit par avoir une influence extrêmement censeur donc sur le moi. Dans ce cas-là, effectivement, le surmoi finit quand même par engendrer donc des misères somatiques. Si nous prenons l'exemple du psychotique, donc des gens qui connaissent des désordres mentaux, qui ont souvent des conduites incohérentes ou un verbe incohérent, eh bien, cette instance qui quand même quelque part s'apparente à la loi, elle peut être excessive, je l'ai dit, mais cette instance va subir plus qu'un déni. Jacques Lacan disait que c'était de l'ordre du trou. Il appelait ça la forclusion, c'est-à-dire que la loi n'existe pas, il n'y a plus de limite. Donc, on dit qu'un psychotique, effectivement, exerce en fait une espèce de rapport étroit entre le ça et le moi. C'est-à-dire qu'on voit, c'est le plaisir débridé. C'est une quête effrénée de plaisir avec souvent des conduites à risque insensé, etc. Et ce sont des gens, vous le savez, qui n'entendent pas, puisqu'effectivement, il n'y a pas de repères extrêmement précis, donc encore une fois, au niveau de limites. Alors, en ce qui me concerne, et malgré ce qu'a conseillé Jacques Lacan, je ne reçois pas, moi, en cure analytique et psychotique, parce que ce qui m'intéresse, justement, peut-être par des formations professionnelles, c'est de travailler sur le langage, de travailler sur le discours, et je trouve que c'est ce qui fait de mon métier quelque chose donc, de passionnant. Je dis toujours que je pense que prendre en charge les psychotiques, à mon sens, relève, si on veut être raisonnable, honnête, en fait, plutôt encore d'études expérimentales. Bon, maintenant, je ne veux pas dire donc par là qu'il ne faille pas prendre en charge les psychotiques, mais à mon avis, ça reste encore du domaine de l'institution. Vous savez qu'on pourrait faire, vous en doutez, beaucoup d'argent avec des parents qui ont des enfants autistes, notamment, qui craquent complètement. Et je trouve qu'il n'est pas honnête de les prendre parce qu'on est en chemin, par exemple, quant à l'autisme ou d'autres pathologies lourdes, mais il ne faut pas rêver. Moi, à mon sens, ce n'est pas une psychanalyse qui peut rétablir comme ça, en l'absence aussi d'un environnement médical qui peut rétablir une cohérence, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le lien en analyse, puisque le névrosé nous permet de travailler dans la mesure où il est capable de faire réapparaître un lien de cause à effet, bien sûr, parce qu'on l'a vu, il s'agit d'un refoulement. Bon, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'oublie la date de naissance de ma mère que d'ici quelques heures elle ne me reviendra pas. Bon, certes, ça traduit une lutte, ça traduit une certaine agressivité, un certain déni, mais disons que la guidance de la cure, donc la méthode et la méthodologie psychanalytique vont faire réapparaître du lien et petit à petit, la cure fera qu'il y aura un continuum et effectivement, l'individu pourra tout à fait ensuite s'autogérer et il n'aura plus besoin donc de se béquiller. Par contre, au niveau de ce trou, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur la problématique du lien. Encore une fois, pour moi, il faut véritablement être chercheur. Voilà, c'est une position très personnelle, hein, parce qu'il y a peut-être parmi vous des psychanalystes ou des psychologues ou des psychiatres qui voient les choses autrement. Et on a le désir, toutes les deux, de vous donner la parole dès que vous en exprimez le besoin. Même si maintenant vous voulez le faire, vous pouvez. Y a-t-il des questions là à ce stade ? Non ? Ça va ? C'est pas trop rébarbatif ? Voilà, donc, pour ce qui est l'inconscient. Alors, le développement psychogénétique. Donc, en psychanalyse, on s'intéresse à la psychogenèse et non pas à l'organogenèse. Ça, c'est le registre des médecins. C'est un registre médical. Et vous devez connaître donc ce titre de livre célèbre « Tout se joue avant 6 ans », certains courants disent « avant 4 ans ». Alors, dans les grandes lignes, que se passe-t-il ? Donc, je vais vraiment là beaucoup schématiser parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez avec nous et que vous nous fassiez part de vos demandes encore une fois. Donc, la gestation, l'inconscient vit un état de toute puissance dans la mesure où il n'a pas accès à l'extériorité. Finalement, si on prend, j'en sais rien, ce que les gens appellent à très mauvais escient une ménagère, c'est-à-dire une femme qui, quelque part, refuse de travailler, effectivement, elle peut régner en maître absolu dans sa cuisine, au-dessus des fourneaux, etc. Mais il se pourrait qu'elle ait beaucoup plus de difficultés, non pas par limite intellectuelle, mais encore une fois par angoisse, par déficience psychologique, à aller affronter l'extérieur, un employeur, des collègues de travail, etc. J'espère que ça ne vous choque pas. Donc, je vous dis cela. Je ne suis pas du tout contre la femme qui ne travaille pas. Mais donc, c'est pour resituer les choses, effectivement. Donc, on voit que l'extérieur, même si l'extérieur nous attire, l'extérieur peut nous faire peur. Et même, je trouve, quand on a beaucoup cheminé ou quand on n'est plus du tout jeune, comme c'est mon cas, bon, c'est vrai qu'il y a des situations. Hier, RMC m'avait fait le privilège de m'accueillir donc pour une très courte interview. Bon, j'étais pas bien parce que j'avais peur de dire des bêtises et puis c'est pas du tout mon milieu, etc. Donc on voit que l'extérieur, même si parfois on est obligé, même souvent, de passer donc par cette dimension-là, peut nous impressionner. et souvent aussi à juste titre. Donc effectivement, le petit dôme, donc pendant la vie intra-utérine, vit quand même une période tout à fait confortable. Alors il y a aussi un postulat de Freud qui a été très important, qui est avalisé maintenant depuis une quinzaine d'années par la médecine, même si la médecine n'a pas repris les travaux d'ailleurs de Freud directement, qui est le parexcitation, c'est-à-dire pendant les 9 mois de grossesse, effectivement, l'enfant est relativement protégé de tout ce qui pourrait le perturber, donc venant de l'extérieur. C'est un processus donc dit psychophysiologique qui amoindrit donc les traumatismes qui pourraient venir éventuellement bon, d'une famille pas très équilibrée. Et là, encore une fois, j'insiste, je laisse de côté, bien sûr, les problématiques que pourrait entraîner, par exemple, une mère toxicomane. Alors, il est très vite facile, effectivement, d'avoir l'impression que on est tout puissant, et le petit dôme, donc pendant cette période, vit un état de toute puissance. Il vient au monde, les choses sont très différentes, l'extérieur arrive, donc pour certains d'entre vous, je pense qu'ils le connaissaient, c'est ce que Otto Rank a appelé le traumatisme de la naissance, parce qu'il y a un processus de dissociation qui se met en place, et l'inconscient donc du petit dôme fantasme qu'il a perdu en fait une partie de lui-même, donc en naissant, et même s'il ne sait pas encore ce qu'est la mère, donc l'inconscient va passer son temps à rechercher, c'est peut-être pour ça aussi que nous nous accouplons donc affectivement et socialement, mais il va avoir cette quête un petit peu d'ailleurs désespérée tant qu'on ne comprend pas qu'elle est inutile, donc cette quête désespérée qui nous pousse donc à essayer de retrouver cet état trop fusionnel, donc intra-utérin. Donc là on parle de dissociation, c'est la véritable première angoisse donc que l'être humain rencontre, et c'est pour ça que Freud, donc toujours par couple d'opposés, a appelé la méthode psychanalytique la méthode des associations libres. Et là, je refais donc allusion au lien donc, que nous sommes censés rétablir donc, sous l'effet donc, de la guidance de cure. Alors, l'enfant va d'abord découvrir sa mère. Donc, on le verra tout à l'heure aussi en psychogénéalogie, parce que nous, à notre sens, il y a beaucoup d'erreurs en psychogénéalogie qui sont commises. Bon, ça paraît tellement évident. Donc, l'enfant rencontre d'abord la mère. Alors, il va la découvrir au départ, bien sûr, non pas comme un sujet, on s'en doute, mais il va la découvrir comme un objet. Donc, c'est ce qu'on appelle la relation objectale. Et il garde quelque part de sa toute-puissance. Elle n'est plus tout à fait la même. C'est ce que donc on appelle en analyse le narcissisme primaire. Il va fantasmer, donc il introjecte le sein, même s'il s'agit d'un biberon, et ainsi il rétablit l'état de plaisir. Donc on retrouve aussi cet axe, donc au commencement était le ça. Et puis les choses vont se gâter, parce qu'il y a quand même, certes s'il y a du fantasme dans tout cela, il y a quand même aussi un processus donc physiologique réel, et l'enfant va rencontrer bien sûr tous les aléas inhérents notamment donc au processus digestif. Donc quand il va avoir tété, il va déjà éliminer cette boule de lait, donc il va avoir une sensation de vide qui n'est pas encore véritablement de l'abandon, mais enfin il va quand même ressentir que quelque chose l'abandonne. Et puis il y a les fameuses coliques du nourrisson, donc il a l'impression effectivement pour le coup que l'extérieur est quelque chose d'extrêmement agressif. Je dis toujours en cure, on voit que les gens souffrent beaucoup plus d'un envahissement par le vide que d'un envahissement par le plein, parce que même si on se plaint justement d'avoir une famille ou des amis envahissants, la solitude est quand même quelque chose, de part encore une fois d'ailleurs cet état fusionnel intra-utérin, est quelque chose qui nous pénalise beaucoup à tous les sens du terme. Mais l'inconscient reste, je ne parle pas de cas pathologiques, hein, d'inconscients qui déjà sont des inconscients psychotiques, c'est-à-dire de bébés qui régressent psychologiquement dès la naissance, mais pour un petit homme qui est en bonne santé, il a donc ces pulsions de vie, donc que Freud a appelées Eros, pour des raisons que j'ai un petit peu implicitées tout à l'heure, qui sont là et qui ne s'avouent pas vaincus. Alors il va chercher à contrôler la mère, parce que cet objet, donc... Tu m'écoutes attentivement. Oui, parce que Lionel a un petit garçon qui a quel âge? 3 semaines. Mais tu savais tout ça, hein, tout ce que je raconte, tu le sais. Je crois que tu dors très peu, hein, c'est ce que tu m'as dit, très très peu. Oui. On l'a connu jeune homme, tout frétillant, là, mais c'est vrai que Ça file un coup de vieux, hein, finalement. Moi, ça me console. T'as pris 10 ans d'un coup, là. Hein? Bon, d'accord. Et en plus, il faut travailler 3 fois plus. Alors ça, c'est encore autre chose. Hein? Lionel me parlait ce matin, du coup, des couches culottes. On va y venir, d'ailleurs. Là, on va parler d'analité, maintenant. J'essaie d'être aussi doué que toi, mais c'est pas terrible. Hein? Bon. Hein? Alors, effectivement, l'analité, on a parlé de l'oralité, donc avec un processus dit introjectif, c'est-à-dire je mets du dehors au dedans, donc c'est l'oralité, c'est l'absorption, c'est l'alimentation. Donc encore une fois, pour essayer de retrouver cet état intra-utérin, là, ça n'a pas marché. Il y a cette espèce donc d'agresseur, de persécuteur. Donc l'inconscient du petit homme va essayer de se venger. On va dire qu'il va projeter. Effectivement, l'inconscient, même s'il n'a pas encore acquis le contrôle des sphincters, réalise quand même qu'il se passe quelque chose, et notamment donc un processus de l'ordre de la destruction. Effectivement, la défécation est quand même un processus donc destructif. Alors qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, je vais essayer de contrôler ma mère, donc c'est les caprices, etc. Si la mère, lorsque l'enfant se réveille, répond immédiatement à la demande du nourrisson, l'enfant fantasme qu'il a réussi son contrôle. Et à nouveau, il retrouve un état très narcissique, un petit peu lié à la toute-puissance. Si par contre la mère est au téléphone quand l'enfant se réveille, elle ne va pas tout lâcher dans la demi-seconde qui arrive. Et l'enfant va avoir l'impression effectivement que son contrôle échoue. Alors, fantasmatiquement, il va avoir cette attitude puisqu'il a un schéma dit d'identification, donc encore une fois un schéma digestif. Et il va se dire, ben voilà, cet objet qui m'agresse, je vais le détruire. Donc encore une fois, c'est cette agressivité qu'on peut retrouver, ce à quoi je faisais allusion en ce qui concerne Lionel, lorsqu'il y a ces cris qui sont... C'est vrai que ça peut nous détruire, on a mal au tympan, etc. Puis on est complètement hystérisé. L'enfant là, a l'impression finalement d'atteindre sa cible, mais déjà, le surmoi auquel j'ai fait allusion tout à l'heure opère, il va rentrer en culpabilité. Et là, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de rétorsion, c'est-à-dire que l'inconscient commence un petit peu à réaliser que s'il fait du mal, on peut lui faire du mal. Alors, l'enfant n'est pas très bien à ce stade-là, et bon, il a quelques mois, et d'ailleurs, là, les médecins le savent, plus que tout autre, très souvent, ils sont consultés donc pour des états un peu dépressifs chez le nourrisson, aussi des morts subites du nourrisson. Là, par contre, on se désolidarise un petit peu du mouvement médical à ce niveau-là. Et l'enfant donc vit un véritable état d'engloutissement, d'abandon. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours une immaturité pulsionnelle, il n'arrive pas donc à se faire une représentation bien sûr concrète encore de l'extérieur. Et quand par exemple la mère sort de la pièce, eh bien, il fantasme que la mère s'en va avec son moi. Donc il y a un fantasme d'abandon. Là, par contre, à ce stade-là, je suis une ancienne abandonnée de lapsus. À ce stade-là, les pulsions de mort que Freud a appelées très peu fréquemment d'ailleurs Thanatos, donc joue un rôle très persécuteur aussi, qui peut être très actif malheureusement. Et l'enfant peut avoir des conduites très très autodestructrices. Donc, parce que il n'a aucune conscience, bien sûr, de ce que peut être un moi. Et cet état donc d'agressivité, il va malgré lui le retourner contre lui, c'est-à-dire que il finit par fantasmer, ma mère est partie avec mon moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, il va falloir que j'introjecte le moi de l'objet pour essayer de récupérer mon moi qui est à l'intérieur d'elle. Et c'est là où déjà donc se fixe, on parle de fixation en analyse, donc se fixe notamment les profils suicidaires. À part que c'est sur quelque chose de négatif, l'inconscient continue à cheminer, parce que bien sûr les parents font leur travail, les parents parlent à l'enfant, on verra combien le verbe encore une fois est important. Et l'enfant va se rendre compte en fait finalement que lorsqu'il cherche comme ça à agresser l'entourage, en particulier sa mère ou une mère de substitution, eh bien une espèce de distance s'installe, ce qui d'ailleurs va être quelque chose de très salvateur pour l'inconscient. Donc on dit que la mère pose la distance en faisant respecter l'ordre des choses. Cette distance, même si elle est rejetée, effectivement, va structurer la future autonomisation donc de l'être humain. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la translation. L'enfant commence à se rendre compte qu'il y a lui, bien sûr, et la mère. Donc, encore une fois, même si c'est douloureux. Et c'est là, par exemple, lorsqu'on a des patientes, notamment très autodestructrices, qui sont des femmes battues, ou donc là aussi, de par la guidance de la cure, on peut leur permettre donc de prendre conscience, effectivement, qu'elles se font mal donc en supportant certaines situations. Et on arrive donc à un fantasme qui est intéressant, qui a été appelé par Jacques Lacan le stade du miroir, qui peut être pour les Jungiens l'individuation, qui est un stade dit d'identification où l'enfant va véritablement découvrir, même si ce n'est pas facile, qu'il est semblable bien sûr à sa mère, mais qu'il est aussi bien sûr différent. Donc c'est ce qu'on appelle bien sûr en philo l'alter ego. Même parcours avec le père, avec des différences. Là, on va dire que l'enfant n'introjecte plus le sein, mais le phallus. Donc le phallus, bien sûr, vous l'avez compris, est une transposition donc du pénis, puisque l'inconscient à ce moment-là est, encore une fois, même s'il connaît un état psychosexuel, ne sait pas du tout ce qu'est la sexualité. Et par analogie de forme, très fantasmatiquement, donc il envisage effectivement le phallus qui crache aussi une laitance, un petit peu comme étant une sorte de sein. Donc le parcours sera le même, si ce n'est que là, le père, en fait, lui, va être le représentant de la loi. Et lui, l'ordre, il n'a rien à en foutre. Et d'ailleurs, on sait très souvent, le père, s'il a la garde de l'enfant sur un repas, même si le petit veut commencer par le yaourt, il s'en fout. Alors qu'une mère, c'est tu commenceras par ta soupe, et, etc. Mais par contre, bien sûr, le père va imposer donc l'ordre, carrément, donc dans le sens de la loi. À ce stade-là, ça va ? Je vous envahis pas trop ? C'est bon ? Je déborde beaucoup, là ? Oui ? Ça vient ? Ça vous inquiète, non ? Avez-vous des questions à poser ? Tout ce qu'on vient de voir rapidement, c'est le stade dit pré-œdipien. Entre ce stade-là, donc cette grande fresque, et le stade œdipien, il y a ce qu'on appelle le stade phallique. S'il y a des psychanalystes parmi vous, il y en a qui ne sont pas du tout d'accord, qui refusent de considérer ça comme un stade, qui appellent ça plutôt la phase ou la position phallique. C'est très dommage, parce que c'est quand même, entre autres, là où se joue quand même l'essentiel des fixations dites hystériques. C'est-à-dire qu'à la fin donc de cette grande période identificatoire, première grande période, 0-18 mois, une identification à la mère, 18-30 mois, une identification au père. L'enfant se retrouve avec deux imagos. Selon Jung, c'est un terme jungien, l'imago, c'est-à-dire deux images de lui. Il est comme maman, il est comme papa. Mais il est bien évident qu'abandonner une image lui semble crucial, parce que même s'il vit des histoires d'amour et de haine tour à tour avec ses parents, on vient de le voir rapidement, malgré tout, il est quand même le fils d'eux. Alors, il se retrouve avec ces deux imagos. Il va falloir qu'il refoule l'imago, donc il ne correspond pas à sa spécificité corporelle. Si il vous fait rire, je verrai après. Après, on se les repasse, si tu veux. Tu t'amuses. D'accord, on va voir après. C'est carrément cochon, j'ai l'impression. Heureusement que c'est pas filmé, parce que là, notre réputation, Psychanalyse Magazine, c'est fini. Oui, il faudrait peut-être lui donner un micro parce qu'il dit des choses intelligentes, lui.
C'est vrai que si on prend le dessin en dehors de ce que tu viens de dire, ou en dehors du sujet, on peut être surpris.
Ouais. C'est là où souvent les gens ne comprennent pas, effectivement. Pour un petit homme, c'est tout à fait logique. Ouais. Donc, effectivement, si c'est une petite fille, elle devra refouler donc l'imago masculine. Si c'est un petit garçon, elle devra refouler l'imago féminine, dont on peut se servir. Bien sûr, à certains moments dans la vie, une femme peut être amenée à sacrément réagir, ce qu'on appelle la combativité. Donc à ce moment-là, bien sûr, qu'elle phallicisera peut-être un petit peu la relation sans être castratrice. Il est bien agréable pour nous, les femmes, d'avoir un homme un petit peu féminin dans certains cas de figure. Hein. Mais en règle générale, bien sûr, on doit rester en adéquation avec l'être. Et là, intervient maintenant à ce stade-là, donc ce qu'on appelle l'Œdipe. Tout le monde sait ce que c'est. Deux Œdipes. Un Œdipe positif, la petite fille est amoureuse de papa, le petit garçon est amoureux de maman. Et puis un Œdipe dit négatif, moi j'aime pas beaucoup l'expression, mais aujourd'hui, bon, ben, c'est la seule que nous ayons à utiliser. C'est-à-dire qu'il y a un éclairage homosexuel, même si nous ne sommes pas homosexuels, c'est-à-dire que la petite fille va vivre aussi une grande histoire d'amour avec sa mère, et puis le petit garçon vivra une grande histoire d'amour avec son père. Voilà, donc en gros, c'est ce que nous travaillons, si vous voulez, c'est ce terrain que nous avons à exploiter avec nos patients, puisqu'on refait donc ce chemin. Donc la première phase oedipienne, en général, se joue entre 3 et 5 ans, si on reste très freudien. On se rend compte, en fait, que ça peut être beaucoup plus archaïque que tout cela. Ce n'est pas le débat, là, aujourd'hui. C'est vrai qu'on est plusieurs courants à ne pas être d'accord sur les dates, mais enfin, encore une fois, Freud et Einstein ont démontré avec la relativité du temps, de toute façon, nous investissons tous le temps de façon subjective, donc ça n'a strictement aucune importance. C'est pour ça aussi qu'une guidance de cure peut connaître des variations temporelles très larges d'un individu à un autre, bien sûr. Il y a ensuite, je vous le dis rapidement, ce qu'on appelle donc la phase de latence, c'est-à-dire qui sépare deux Œdipes. Logiquement, un enfant qui n'irait pas trop mal à l'âge de 5 ans, donc doit résoudre sa première phase œdipienne, et il va effectivement commencer à se socialiser, voire à s'humaniser, puisqu'il y a eu entre-temps donc le nom du père, N.O.N., c'est-à-dire l'interdit de l'inceste. Enfin, ça se passe plus ou moins bien aussi. Et puis, lorsque la puberté arrive, eh bien, il va y avoir réactivation, bien sûr, des pulsions psychosexuelles, donc une autre phase œdipienne, à l'âge de 15-16 ans, ou avant, un petit peu plus tard, bien sûr, la jeune fille va rencontrer un garçon, une jeune fille, et puis, donc, effectivement, logiquement, il y a déclin de l'Œdipe entre 16 et 18 ans, mais ça, sont des formes idéales, parce qu'on voit dans la vie, compte tenu de nos comportements affectifs, affectés, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, donc ça, c'est pour le développement psychogénétique. Je vais essayer d'aller vite, hein, c'est ça? Qui m'a dit oui? C'est vous? Si, j'entends rien. Non, je laisse la parole. L'inconscient est structuré comme un langage. Donc, effectivement, lorsque nous parlons, nous émettons des sons, ce que nous appelons, nous aussi, bien que nous ne soyons pas grammairiens, donc des phonèmes. Et donc, nous allons travailler en analyse, lorsque nous travaillons donc uniquement sur le langage, nous allons travailler, donc encore une fois, sur des productions langagières et notamment sur l'ambivalence. Alors, qu'entend-on par ambivalence? Eh bien, c'est un mot qui va avoir plusieurs sens. Donc, on ne s'occupe pas de l'orthographe. Alors, je vais peut-être vous laisser la parole. On va commencer à les faire travailler. Comment on appelle ça en grammaire? Joël, vous qui avez fait des longues et brillantes études, comment ça s'appelle un mot qui a plusieurs sens? 0 sur 20.
On ne l'appelle pas, on le dit.
D'accord. Alors, il n'en sait rien, vous avez vu. Après, il nous fait croire qu'il est hyper diplômé. Alors, on va commencer à vous faire travailler, là. Hein.
Alors, si je prends le terme, je prends toujours les mêmes. C'est pour ça que c'était un peu pour varier, parce que là, il y en a qui me connaissent, ils commencent à en avoir marre. Je ne me casse pas la tête. Je prends, par exemple, le mot foie. F-O-I, F-O-I-S, F-O-I-E. La ville de Foie. Pardon. Bah, bien sûr, c'est un homonyme. Non, je pensais qu'il le savait. Il nous explique toujours qu'il est bardé de diplômes. Ça s'appelle un homonyme. Voilà.
Mais il ne fallait pas répondre.
Ah bon? Il ne parle plus, vous voyez, quand on parle de langage, Joël se tait. Donc, votre patient vient et puis peut utiliser effectivement cette ambivalence au conscient. Il fait ça, en fait, pour brouiller les pistes, c'est-à-dire pour qu'on n'ait pas accès à l'inavouable. Et donc, on va utiliser, en fonction du moment de la psychogenèse que nous travaillons, on va utiliser cette ambivalence langagière pour lui renvoyer son transfert. De façon à ce qu'on soit en communication d'inconscient à inconscient. Donc, on travaille là. Parce qu'effectivement, au conscient, s'il vous a dit dans la semaine, j'ai plusieurs fois mal à la tête, il est bien évident que le foie qui nous a lancé, c'est un facteur pluriel, et d'ailleurs, vous voyez qu'il se fout déjà de nous, F-O-I-S. Donc, en fonction, encore une fois, de cette grande phase psychogénétique que nous traversons, en fonction du moment que nous étudions, soit que nous soyons en identification mère ou en identification père ou en stade phallique ou en Œdipe qui comporte beaucoup de subdivisions, nous allons, bien sûr parce que nous l'avons appris, nous allons prendre en fait la possibilité discursive qui correspond au stade étudié. Et donc on va lui renvoyer la balle. Alors, je vais vous faire travailler. Supposons, vous ne pouvez pas écrire, vous écrivez bien, vous ne faites pas de faute en plus. Bien gros. Alors, qui veut faire une phrase avec le mot foi, F-O-I-S ? Joël, vous ferez passer le micro, ça vous en est pas ? Voilà.
Il était une fois.
Il était une fois. Et puis, bon, vous avez le droit aussi de vous arrêter là et d'embêter le psychanalyste, bien sûr. Oui ?
Dans le foie, dans la ville de Foix, qui vendait son foie, elle se dit ma foi.
Plus jamais ça... je prendrai cette ambivalence-là, vous vous en doutez. Voilà, alors on va tout décrire. Voilà. Ah, ça, il fallait que je m'y attende. Hein. Vous ne voyez peut-être pas très bien au fond. Donc il était une fois, une vendeuse de foie, pas une vendeuse. Qui vendait son foie, parce qu'en plus vous en rajoutez une couche. C'est pas qu'il vendait du foie, vous lui dites qu'il vendait son foie. Vous n'avez pas un peu arrangé les choses, là, parce que déjà que c'est compliqué. Hein? Bon. C'est un foie, ça? Ouais, là, tu t'es pas appliqué, hein? On dirait un cœur, hein? Tu confonds le cœur et le foie? C'est sympathique pour sa compagne. Alors... C'est vrai que moi j'étais partie sur une direction avec madame, il était une fois, je me suis dit c'est bien, on va imaginer qu'on est plutôt dans un stade préoedipien, immature. Là, on va considérer, et on va rejoindre d'ailleurs les travaux de Jacques Lacan, qu'on est sur du symbolique, parce qu'effectivement, Xavier l'a dit, on connaît ça. Donc c'est ce qu'on appelle le symbolique, c'est-à-dire que ce que tout le monde pourrait vérifier. Ça m'amène à donc peut-être à rappeler que Jacques Lacan, lui, a parlé donc de RSI, c'est-à-dire du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Le réel, il y a de toute façon des différences avec les travaux freudiens, mais en gros, de façon très, très simplifiée, le réel peut correspondre donc au moi, le symbolique au surmoi, et donc l'imaginaire au ça, hein, de façon très simplifiée. C'est des travaux que vous devez connaître, je pense, pour la plupart. Donc, deux registres, a-t-il dit, l'imaginaire et le symbolique, et le réel, qu'il n'a pas apparenté à un registre. Il n'a pas fait de faute, on va se faire engueuler sinon. Non. Alors, ce qu'on va faire, puisqu'effectivement vous nous lancez donc une difficulté plus grande, on va travailler sur le symbolique. Donc le symbolique, c'est la loi, c'est le surmoi, c'est l'ordre des choses, c'est le plus grand nombre, c'est peut-être là aussi où intervient effectivement la cohérence du sujet. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un dans la salle se mettait à nous dire ah « ben ça, c'est Shakespeare », je pense qu'on ne serait pas d'accord. On verrait qu'il y a un petit problème, effectivement, dans la tête de la personne qui lancerait ça. Alors, à votre avis, quelle ambivalence allons-nous utiliser pour renvoyer la balle à l'inconscient du patient ? Donc, on est sur du symbolique, on est sur de la loi. Moi, je pense que... On va faire un peu là comme ça se fait partout. Là, les bonnes réponses auront peut-être droit à une boisson gratuite offerte par Psychanalyse Magazine, non ? Hein, ça ? Ah ben oui, écoutez, on fait tout ce qui se fait pas en analyse. Vous savez qu'on fait pas de cadeaux en analyse en général. On rentre un peu en hystérie de séduction. À l'exception de l'équipe de Psychanalyse Magazine, hein, on n'a pas le droit de lever le doigt.
Vous avez raison, il faut susciter les réponses.
Ouais, comme vous parlez bien. Alors, à votre avis, donc il était une foie, une vendeuse de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, c'est bien la première et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Ça a toujours intérêt, elle est un peu vite en analyse, donc plutôt apprendre, s'il y a des répétitions, on va travailler tout à l'heure sur la compulsion de répétition, apprendre plutôt la première ambivalence, donc qui s'apparenterait à du symbolique. Donc le symbolique est peut-être aussi à entendre quelque part... elles sont un peu neutres. C'est-à-dire, le symbolique, logiquement, c'est quelque chose, ça se discute hein, sur le terrain, mais qui n'est pas très affecté. Tentez. C'est facile, là. On va prendre la ville, plutôt. On va contre-transférer sur la ville. C'est ce qu'il y a de plus neutre. Il est bien évident que si votre patient ou votre patiente est né à Foix, il vaut mieux éviter, on s'en doute, parce que là, on s'attaquerait aux symptômes de plein fouet, au niveau d'une identité. Voilà. Alors, on va faire une proposition, donc
on va rentrer dans le discours véritablement et on va répondre au désir du patient. Je crois qu'il y avait quelqu'un derrière moi, je suis en train de devenir complètement paranoïaque. Donc, il va falloir que ça reste cohérent. Parce que le patient, bien sûr, n'a pas à savoir comment on travaille, il n'est pas là pour ça. Je dis toujours qu'un bon analyste se positionne de façon à ce que l'analysant, c'est-à-dire le patient qui vient nous voir, ne se rende pas compte qu'on travaille, sinon ça serait ingérable. Alors on va faire une proposition, c'est-à-dire on a effectivement une histoire, on va renvoyer la balle, donc il va falloir qu'on donne une association à notre patient qui contienne la ville de Foix. Mais il faut que ça reste cohérent avec ce qui est au tableau. Qui veut faire une proposition ? C'est excellent ce que vous dites. Je ne savais pas qu'il y avait un château à Foix.
Que s'est-il passé à Foix ?
Alors, oui, moi je préfère la proposition de madame dans la mesure où, effectivement, c'est beaucoup plus implicite. Or, on travaille sur les implicites. C'est là où, quand on voit que Jacques Lacan disait, vous savez, les psychanalystes, ils en connaissent un bout, disait-il ironiquement. D'autre part, c'est beaucoup plus simple sur le terrain, parce qu'on ne va pas voir un analyste par hasard, effectivement, en général, si l'analysant est satisfait son analyste, sinon il ne revient pas. Il va nous donner un matériel, il y a une espèce comme ça de complicité d'inconscient à inconscient, il va nous donner un matériel qu'on va pouvoir utiliser. J'ai aucune culture, je ne me suis jamais retrouvée complètement fracassée sur une séance analytique parce que je ne pouvais pas renvoyer la balle. Donc c'est vrai aussi que à nous aussi de nous positionner de façon à ce que le patient n'ait pas l'impression qu'on soit le supposé savoir, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en général, c'est toujours on est servi sur un plateau. Alors effectivement, on pourrait parler de château. Et ça serait très intéressant, elle est excellente votre intervention. Moi je crois que cette dame a gagné une boisson, hein. Philippe est dans la salle parce que je vais me faire. C'est notre trésorier aussi. Je vais me faire tirer les oreilles. Alors, je trouve que ça va très bien parce que ça fait histoire un peu de prince et de princesse. Mais ça, on pourrait le dire. Même on pourrait dire au patient, la forme n'a plus aucune importance. On pourrait dire au patient attendez, si vous continuez, là, vous allez me raconter. Des histoires de prince, de princesse, oui, ça reste très implicite, ou l'histoire de la Belle au bois dormant, etc. Et vous doutez qu'au travers de cela, donc, au travers de cette construction du désir, on va avoir un matériel très intéressant, il va y avoir une levée des résistances progressivement, et on va aboutir à une abréaction. Ça va ? En gros, vous avez à peu près entendu ? C'est bon ? Vous avez des questions à poser ? Monsieur qui nous avait... balancer du symbolique, là. Oui.
Quand j'ai lancé cette phrase, j'ai pensé à un maître d'école que j'avais, que j'adorais.
C'est très bien. C'est voilà. Gentil aussi de nous dire ça. C'est bien. Voilà. C'est aussi une forme d'abréaction. Et c'est aussi ce qu'on appelle donc le transfert. Je vais prendre un petit peu le rail, parce que je ne sais plus trop ce que j'avais marqué. Donc ça, effectivement, vous vous en doutez, c'est très simplifié. C'est pour vous donner une idée de ce qu'est la psychanalyse, parce que c'est vrai qu'en tant qu'analyste, on en a un peu assez d'entendre, je le dis toutes les fois, mais je le fais volontiers toutes les fois. Je le fais pour... je le transmets de façon très volontaire. C'est vrai que les études analytiques sont longues et difficiles. On en a assez d'entendre à la télévision et de dire que pour être psychanalyste, il faut avoir fait une analyse. C'est pas suffisant. Oui. Oui.
C'est dans ce château de Foix, je savais qu'il y avait un château de Foix, c'est le berceau, c'est le cas de le dire, au sens propre comme au figuré, d'Henri IV, qui est né dans une espèce de grande coquille de tortue que l'on trouve dans le château de Foix. Et vous voyez,
voilà, on voit les associations d'idées qui se mettent en place.
C'est marrant parce que...
Voilà. Voilà. Et là, on est sûr de respecter, voyez, l'inconscient. C'est-à-dire que c'est pas la preuve en est. Je ne savais pas, je connais pas la ville de Foix. En plus de ça, je ne savais pas qu'il y avait un château. Et on voit à ce moment-là qu'on respecte véritablement le désir, le rythme pulsionnel de l'analysant. Donc, on ne fait pas de dégâts. Et la neutralité bienveillante n'est possible qu'au travers de cet apprentissage-là et de son respect. donc ce qu'on appelle maintenant davantage l'empathie, c'est-à-dire ni sympathie ni antipathie. Merci, c'est très gentil là, de nous avoir apporté ce témoignage aussi. Alors, donc j'avais mis, on va aller bien sûr vite, le langage, alors les rêves. Bon, là, on n'a pas le temps de prendre de rêves, bien sûr. On peut aussi, décrypter comme un langage, sont des grilles de lecture différentes, le rêve. Il y a une erreur à ne pas commettre. On ne peut pas faire une analyse uniquement avec du matériel onirique. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre ça comme une induction. Effectivement, le patient a un rêve ou des éléments de rêve. Donc, c'est ce que d'ailleurs Jung a appelé une induction qui a été avalisée par Freud. Mais il faut quand même que le patient associe. Il faut qu'on ait du matériel, bien sûr, au niveau donc, du langage, de façon à pouvoir travailler comme on vient de le voir. D'autre part, au niveau des rêves, moi, ce que j'ai constaté souvent, parce que nos patients sont beaucoup plus au fait des choses que ce qu'on peut le croire, ils nous donnent un rêve, mais 9 fois sur 10, ils ont fait l'exégèse du rêve. Ils nous donnent tout simplement l'exégèse qui est faite. Je sais pas, vous avez ce sentiment ? Voilà, les rêves, qu'est-ce que j'ai écrit ? Le dessin, donc, bien sûr. Françoise Zolto a dit la même chose. On fait dessiner un enfant, mais on le laisse associer. Il n'est pas question de prendre un dessin d'enfant. Et sous prétexte qu'on a vu, a priori, une espèce de bonhomme avec une jupe... et un mec avec un pantalon, ah, ça c'est ta maman, ça c'est ton papa, les histoires de maman est plus grande que papa qui ferait tirer des conclusions arrivent, sont une erreur et c'est de l'incompétence. Hein. Il faut savoir aussi que l'exégèse de dessin, ce qui rejoint aussi le grand concept de Freud de psychanalyse appliquée, est quelque chose d'extrêmement difficile. L'art-thérapie, c'est quelque chose de difficile et il faut une compétence très grande, donc au niveau théorique, au niveau pratique. On en parlait hier avec Xavier, on me disait que la pédopsychanalyse reste une discipline très difficile. C'est pas du tout parce qu'on a un enfant en face de soi que les choses sont aisées. D'autant qu'il y a aussi les transferts des parents qui sont là et qui nous gênent beaucoup par moment. Et puis donc, l'écriture, en fait, j'en ai parlé parce que on pourrait faire un bilan, on pourrait reprendre, effectivement, Xavier, parce que là, je voulais pas toucher d'affect, il était une fois... Voilà, alors, je vais demander à quelqu'un d'entre vous d'isoler au hasard un mot de ce qui est au tableau. Voilà, alors, on va l'encadrer, donc, première. Alors, c'est très... Je vous fais des misères, c'est très intéressant parce que vous venez juste d'arriver... Et vous isolez le terme premier. Mais on était sur du symbolique, et je crois qu'il y a quelqu'un de célèbre qui a dit « les derniers seront les premiers ». Voilà. C'est ça, hein ? Voilà. Voilà. Alors, on va faire une petite interprétation, donc ce qu'on appelle l'exégèse, hein, aussi en analyse, donc sur l'écriture. C'est vrai qu'on peut tenir compte parfois d'une écriture bon, qui peut changer d'un mot à l'autre, mais c'est vrai qu'en tant que linguiste, on ne travaille quand même pas directement là-dessus. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des lapsus calamis aussi, c'est-à-dire bon, ce qu'on pourrait aussi appeler des fautes, etc. Mais en général, on reste quand même très proche donc, des phonèmes. Alors, on va faire une écoute phonétique. Qu'est-ce qui va nous permettre... Il faut que je regarde. Hein, je regarde. Ah d'accord. Mais vous êtes carrément en pleine régression, hein. J'ai l'impression qu'il est en rivalité avec son fils, Sacha. C'est lui que vous avez mis là ? Il n'est pas gros, hein ?
C'est vrai que je me suis dessiné, mais c'est vrai que ça peut être dans mon nom. C'est vrai que ça peut être...
Vous l'avez situé où, là, votre fils ?
Non, mais c'est... ça, c'est pas moi.
Oui, non, mais ça, j'avais compris. Je vous ai reconnu.
Mon fils, il est pas là.
Il n'est pas là. Non, mais c'est vous partout. Vous avez raison, en plus de ça.
Oui,
c'est vous partout, ouais. Si je comprends bien, ça c'est l'analyste. J'ose espérer que c'est Xavier qui est représenté. Non, mais oui, parce que non. Désolée, mais vous allez beaucoup écrire après. Et puis, oui. Non, c'est vrai que vous n'allez pas bien. Hein. C'est très grave. Oui, allez-y, Lionel, allez-y.
Oui, enfin, c'est un peu tard pour moi, mais...
C'est un peu tard.
Peut-être qu'il y a toujours aussi le fait que être dessinateur, c'est pas vraiment
On n'est pas vraiment grand, c'est ce que vous voulez.
Enfin, oui,
comme je m'exprime mal, c'est pas sérieux. Oui.
Ça restera toujours.
Donc vous voulez dire par là, vous avez une âme d'enfant.
Oui, oui, non, ça c'est bien.
Ah mais nous aussi, on travaille pas sur l'orthographe, vous voyez, on travaille que sur la phonétique. Nous c'est pareil, hein. Finalement, on a un côté très très primaire, heureusement d'ailleurs. Et je trouve que c'est merveilleux, non?
Oui, c'est merveilleux, mais il faut l'assumer.
Ben, je crois que surtout, il faut plus se préoccuper du regard des autres. Oui. C'est surtout ça, c'est-à-dire c'est le regard des autres qui nous limite, mais ça, avec l'analyse, on le dépasse. Hein. Donc, on était au terme première. Alors, on va faire donc une interprétation de ce terme. On va aller chercher tous les phonèmes. Vous voulez les écrire un petit peu en capital? Alors, première, vous voyez, on peut déjà l'entendre comme une première. Bon, d'ailleurs, c'est peut-être une première, ce qui se passe là. Encore, ça nous arrive quand même de faire ce genre de choses. Je pense, tiens, quand on est allé chez Michel Freud au mois de juin. Non, c'était pas tout à fait pareil, là. Elle est là, Michel? Non? Parce que je crois qu'elle veut vous parler de sa famille aussi, je crois que ça se passe. Une première, c'est aussi quelque chose de très important, être à une première. Donc ça, on va un petit peu le garder hein, au niveau de l'écoute. Donc oui, ce que j'ai peut-être pas assez dit, c'est que la psychanalyse donc est une écoute de l'inconscient. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Il y a mi comme phonème, il y a hier. Ah oui, il est preux, oh, oui. On reste dans l'histoire du château, c'est très intéressant parce qu'on a un lien. Voilà, puis avec ça, il va falloir qu'il nous donne une interprétation. Voilà, donc preux. Bon, bien sûr, on garde l'idée de première, mais au sens figuré. Hein. Vous voyez autre chose? Il y a R. Il y a R qui a plusieurs sens, là, pour le coup. Donc si vous avez de quoi écrire, parce qu'elle écrit tout petit, Xavier. Ah oui, de ça, je vois sûr qu'au fond, ça doit vraiment pas être de la tarte. Hein. Certes, vous avez un peu les cancres au fond, donc c'est pas gênant. On voit Laurence qui se marre. Des grands bâtons, il faut faire. Il s'énerve, hein, Joël. Oui, il n'est pas aimable. Hein. D'abord, vous n'êtes pas notre prof. Joël vous rappelle que R, E, R, E, c'est la période, il faut l'écrire. Comment vous avez appris quelque chose. Voilà, c'est bien. On pourrait, mais là je ne veux pas quand même vous embrouiller, on pourrait même entendre R, H, I, R, on va laisser les choses comme ça. Voilà. Donc vous avez mi, hier, preux, R, R, E, R, R. La première, je vais vous demander de faire un bilan. C'est-à-dire qu'il va falloir organiser tout ça. On va rester sur le symbolique. Voilà, supposons que vous ayez une patiente. Alors, bon, en plus, on n'a pas d'anamnèse, on n'a pas d'éléments, on n'a pas de recueil quant à son histoire. Mais elle nous a payé très cher, il va falloir lui dire quelque chose quand même. Hein. Si vous choisissez donc de travailler sur l'écriture, qui est donc un support anal. L'oralité, je parle. Là, on est sur un support anal. Tout comme dans le dessin, donc comme en peinture thérapie, en sculpture thérapie, en modelage thérapie, etc. Après, j'arrête. Alors, si vous aviez une patiente qui vienne, quelle interprétation, quant à ce mot, lui feriez-vous? On fait un peu d'analyse sauvage. Comment?
Hier, avant, ancien, oui. Air, l'espace.
De toute façon, oui, alors, si c'est une femme, il y a un élément quand même que je vais vous apporter, si c'est une femme qui dit première, c'est bon, puisque là, il y a une adéquation avec sa spécificité corporelle. Si par contre, c'est un homme, on voit qu'il y a un problème imagoïque qui n'est pas à sa place, donc on dirait qu'il est quand même quelque part hystérisé par une situation. Mais là, effectivement, c'est un bilan qui va être positif, puisque c'est vous, madame, qui avez donné le terme.
Je dirais qu'elle est ancrée dans ses racines, alors.
Oui, mais au bon sens du terme. Oui, c'est-à-dire que c'est oui, c'est-à-dire que si on avait une patiente donc qui nous dit ça, elle est. C'est intéressant d'ailleurs, ça va rejoindre la psychogénéalogie, ça va nous faire un lien. Effectivement, c'est-à-dire que on a l'impression d'un inconscient qui en fait accepte son passé comme quelque chose finalement d'extrêmement porteur, évolutif, et qui ne se laisse plus engloutir par cela. Hein, c'est-à-dire que ah, vous êtes en chemin, vous. Oui. Vous savez, moi, je trouve que quand même, vous n'êtes pas allé si mal que ça. Bon, je ne vous connais pas du tout, on ne se connaît pas, il n'est pas question qu'on rentre dans une analyse personnelle. Mais je trouve qu'arriver comme ça, la dernière, s'installer, donner le mot, moi, je trouve que quand même, vous devez avoir un inconscient qui se porte bien quand même. Hein?
Mais de toute façon, vous êtes en chemin. Vous savez que l'inconscient visionnaire, il est très anticipatoire. De toute façon, même si vous estimez au conscient que vous n'avez pas réglé cela, vous êtes en marche. Vous avez vraiment envie qu'on vous reconnaisse aussi, parce que chaque être humain a des qualités. Vous êtes certainement beaucoup plus branché qualité que défaut actuellement. Du moins, il y a cette quête. De toute façon, vous êtes aussi dans un environnement aujourd'hui qui veut cela. Vous sentez un petit peu ce qu'on vous dit ou...
Tout à fait. R, c'est de la place.
Oui, oui. Oui, il y a beaucoup de choses, bien sûr. Donc, un espace, certainement, que vous avez l'intention maintenant d'occuper. Vous n'avez plus l'intention qu'on vous prenne votre place, si ce n'est pas justifié, bien sûr. Donc, il y a certainement aussi des limites qui sont acquises, etc.
Sans le savoir, consciemment. Ah,
vous n'avez jamais fait de travail sur vous ?
14 ans.
Ah ben voilà. Bon. Bon. Moi, je trouve que c'est bien. Hein. Voilà, on va pas vous faire de misère, hein, c'est pas le but. Mais voyez qu'on peut avoir aussi donc une lecture sur un support encore une fois dit anal. Bon, il est bien évident que ça requiert aussi toute une connaissance bien sûr théorique. On fait pas un bilan n'importe comment. Là, il n'y avait pas du tout de risque. Donc encore une fois, puisqu'il y avait une adéquation, on était sur un féminin. Donc on pourrait dire que Madame est quand même dans son axe, peut-être beaucoup plus que même ce qu'elle peut le croire. Et je pense que vous allez avoir maintenant, j'aimerais un peu sur le destin, vous allez avoir une tranche de vie donc, qui va faire que vous allez pouvoir révéler tout votre potentiel intrinsèque. Et vous aurez certainement beaucoup d'opportunités. Voilà, l'inconscient étant en visionnaire, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, Xavier, vous allez passer à la psychogénéalogie. Vous voulez expliquer ce qu'est la psychogénéalogie ?
Vous le disiez, Chantal, donc la psychogénéalogie est une des méthodes de lecture dont on dispose. La psychogénéalogie, c'est l'étude donc de notre histoire, de notre histoire familiale, c'est ce qui va permettre lors d'un travail analytique, entre autres, ou même indépendamment, ça peut se faire aussi de façon plus ponctuelle, c'est ce qui va permettre de mieux comprendre l'histoire de chacun en fonction de ce qui s'est passé dans les générations qui l'ont précédé. Alors, on va essayer peut-être d'être un petit peu rapide puisqu'on a peut-être pas trop de temps. Alors, non. Lorsqu'on monte ce qu'on appelle une psychogénéalogie, on va le faire suivant un ordre bien déterminé. Alors, donc, on commence d'abord par le patient, par la personne qui vient et qui veut essayer de comprendre son histoire. Et puis, on va donc lui demander des renseignements en remontant au niveau des personnes qui l'ont précédé. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un exemple d'une généalogie. J'aurais pu choisir un exemple déjà tout fait, mais je pense que c'est peut-être mieux que vous participiez. Alors, donc on va choisir, enfin vous, si vous le voulez bien, vous allez donc me proposer donc une personne, ça peut être une dame ou un monsieur, on va donc avoir une personne avec son identité, et puis on va dire qu'on va remonter deux générations en amont. Trois générations, ça suffit. C'est vrai que j'ai peut-être pas parlé des compulsions de répétition, j'ai peut-être oublié.
On peut les introduire après.
Sur trois générations, on arrive déjà bien à comprendre l'histoire de quelqu'un, puisque comme vous le disiez Chantal, on va toujours se référer à la triangulation de base d'un individu, à savoir lui, sa triangulation avec ses parents. Donc on va rester sur ce schéma de trois, et ça donne tout à fait de bons résultats. Alors, quand on monte une généalogie en psychanalyse, c'est vrai que c'est important de respecter cet ordre, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois, à partir de l'individu, aller du côté pour une génération, du côté de la jambe maternelle, puis du côté de la jambe paternelle. Comme Chantal vous le disait, on va suivre l'ordre systématiquement de la psychogénèse, c'est-à-dire d'abord dans la relation à la mère et en second lieu dans la relation donc au père. Alors là, ce que je vous propose, c'est qu'on commence donc à noter. Alors, on va partir donc d'une personne avec son nom et son prénom, Vous voulez pas qu'on fasse que sur le prénom, non?
Comme vous voulez. Grand, oui, on peut le faire que sur le nom.
Je ne sais pas pourquoi le temps a passé, là.
Oui,
oui. Allez, on va leur faire trouver un prénom. On va aller un peu vite. On va monter la famille Bidochon. On va s'amuser un peu. Il faudrait un prénom, alors masculin ou féminin, comme vous voulez. C'est pas compliqué, ça, quand même. Marc. C'est très bien, il y en a un dans la salle. Alors, Marc, on va lui attribuer une profession. Vitrier. Vitrier. On va peut-être...
Ce qu'on peut faire, c'est lui. Alors, trouver le motif de la consultation. Oui, voilà. Il vient nous voir pourquoi, Marc?
Parce qu'il va pas bien.
Oui, mais est-ce qu'il est divorcé? Est-ce qu'il a perdu son emploi? On va quand même un peu le charger, hein. Il est là, Marc? Il est là? Parce que je ne le vois plus alors qu'il mesure 1m90. Oui, oui, glisser.
Il a des problèmes dans son travail.
Oui, mais... Il veut changer de métier. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre alors? Il a des problèmes avec sa hiérarchie? Pardon, j'ai pas entendu. Il a le vertige. Oui, là vous c'est... Bon, alors on va tout mettre. Donc en fait, il divorce, parce que sa femme le trompe. Hein. Depuis, il a des troubles de l'équilibre. Alors en tant que vitrier, surtout s'il travaille à New York, ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, donc, de toute façon, il vient parce qu'il nous dit, je vais changer de métier après tout. Il faudrait peut-être qu'il règle autre chose parce qu'il peut avoir le vertige, dans d'autres cas de figure. Donc, il veut changer de métier. Alors, il a une mère ou pas? Ou il arrive tout droit de la DAS?
Non, il a une mère.
Il a une mère. Quel est le prénom de sa mère?
Ça ne
nous coûte pas cher. Hein. Josette. Un père? Joseph. Avec Joseph, sa fiancée, c'était Marie, hein, c'était pas Josette, hein.
C'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie? D'accord. Alors, Josette a une profession ou non?
Non.
Bon, donc elle est sans profession.
Alors, on met SP, hein, sans profession.
Et quelle est, pour dire, sa particularité? Elle est malade, elle fait des fausses couches. Elle a d'eczéma. Bon,
elle a une polyarthrite.
Ah, polyarthrite. Donc, on part sur une histoire vraie. Joseph. Joseph, qu'est-ce qu'il fait?
Il est cadre.
Ah. Il ne laisse pas faire.
Il va bien
il est malade? Non. Comment?
En pré-retraite?
Là, on est un peu... Oui. De toute façon, vous dégagerez ce que vous aurez dégagé en pré-retraite. Vous êtes en pré-retraite. Et puis, on avait dit que Josette avait de l'eczéma. C'est ce que vous nous avez dit? C'est Joseph qui a de l'eczéma? D'accord, infidèle. Parce qu'il n'est pas coureur, non. Infidèle. Pardon? D'accord. Alcoolique. Bon, je crois que ce n'est pas la peine qu'on aille ailleurs. Hein. On va travailler sur cette triangulation.
Oui.
Voilà, et on va vous demander donc quelle est en fait l'origine de la névrose d'échec de votre consultant. Voilà. Ah bah attendez, ça se mérite, hein, une petite boisson gratuite dans le cadre de Psychanalyse Magazine, hein, d'accord? Non, mais attendez, déjà, c'est gratuit, là. Alors, hein. Oui, donc, ça serait intéressant, hein, de dégager ça. Alors, la chose qu'on va vous demander, donc, c'est de repérer
ce qu'on appelle...
Il a un strabisme. Oui, alors, pour... Divergent. Alors, il est charmant. Marc, vous êtes toujours là? Ça va. Bon, un strabisme divergent pour Marc.
Mais,
je suis pas sûre que la psychanalyse, quand même, aboutit, lui permette... Ça ne nous est encore jamais arrivé. On aurait du monde, hein, Marc. C'est toujours ce que je dis à mes élèves quand ils se plaignent. Elles me disent, ouais, mais ça va pas vite, alors on n'y arrive pas, on n'est pas bien. Alors, il y en a, ouais, moi, j'ai pas d'enfant, alors que ça fait des années que je viens vous voir. Alors, je leur dis toujours, c'est le mec qui vient avec... un bec de lièvre, en fait, c'est ce que je vous dis, là, chez les élèves. Hein. Même après 10 ans d'analyse, il ne repartira pas avec la gueule de Brad Pitt, hein, parce que ça, on a quand même nos limites, hein. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, ça serait dramatique. La psychanalyse, en fait, on ne l'a pas dit, c'est aussi la possibilité d'accepter ce qui nous gêne, peut-être à tous les sens du terme. Hein. Effectivement, si quelqu'un vient
avec un bras en moins, enfin, la psychanalyse qui va faire que le bras va pousser. Beaucoup de choses qui se règlent, mais pas tout. Voilà, alors on va vous demander donc de regarder les compulsions de répétition, ce qu'on peut appeler des invariants, oui, des choses qui se ressemblent. Donc on va essayer d'isoler.
Alors, on va comparer, bien sûr, on va essayer de comparer quand même ce qui se compare au départ. Et puis si toutefois, on se siffle un peu. Hein, le problème, c'est de la voix. Donc on va essayer d'abord, dans un premier temps, de comparer ce qui se compare. Donc on peut regarder au niveau des professions, essayer de voir si dans les trois professions, il peut y avoir quelque chose un petit peu de la même famille. Ah oui, c'est bien ça. Le vitrier et cadre. Oui. Oui, on peut oser ce genre de choses. Oui. C'est très bien. Ah, c'est excellent. Ouais, on peut trouver ça aussi. Oui, vous avez raison de dire ça, parce qu'en fait, si on faisait associer le patient, il est certain qu'il pourrait tout à fait nous décrire sa mère comme étant une ménagère obsessionnelle du nettoyage de carreaux. Vous avez tout à fait raison, parce que fatalement, il y aurait un Œdipe là. C'est très bien. Oui. Oui, il y a madame aussi qui a donné beaucoup de réponses. Alors, vous ferez connaître auprès de... vous essaierez d'éviter Philippe et les Jams, si c'est possible, parce que je vais me massacrer. Vous verrez avec Joël. Hein. Oh, non, ça c'est un peu une projection. On va s'intéresser à ce triangle. Alors, on va essayer de le reformer, ce triangle. On va essayer d'en faire une lecture. Et donc, on va avoir une réponse quant à l'Œdipe positif, hein, puisque bien sûr, il y a deux hommes et une femme. Et on va voir déjà comment a été envisagé l'Œdipe quand Marc était tout petit garçon. Là, on compare juste les professions. On va voir au niveau de ce triangle. Il faudrait trianguler, Xavier, s'il vous plaît. On va faire un triangle au niveau de 100 professions, cadre et vitrier. Vous l'avez redessiné, pardon. Je pensais que vous avez triangulé sur la généalogie. Oui, non, triangle. Moi, je pense que c'est mieux, parce que sinon, on va avoir l'impression qu'il y a d'autres familles pour le coup. Moi, je fais un triangle au niveau des professions. C'est-à-dire qu'il faut faire un triangle au niveau de 100 professions, cadre et vitrier. Lionel, tu ne veux pas lui faire un triangle, parce que je ne sais pas comment ça se fait. Enfin, un triangle en tout bien, tout honneur, hein. Non, mais moi, je le fais comme ça. Voilà, oui. Mais ce qu'on appelle une résistance, c'est un mot tabou, en plus, on ne va pas mentionner. Peut-être être amoureuse d'un vitrier, Xavier, dans votre jeunesse. Voilà, alors, on va voir comment l'inconscient a envisagé donc l'Œdipe. Ah, c'est intéressant que vous parliez d'opposition, parce qu'effectivement, dans l'Œdipe, le garçon donc est en opposition au père, hein, c'est le rival. Alors, est-ce qu'il a pu s'opposer au père ou pas? Parce qu'elle est là la bonne question. Oui, c'est très bien. Ouais. Moi, je pense que le père a posé des limites quand même. Oui, mais des limites... ce qui serait bien, ça serait peut-être qu'on identifie les limites. Lionel. Non, mais c'est vrai que logiquement, il faut qu'il y ait des rapports de force quand même entre le fils et le père. Malheureusement, souvent, c'est entre le père et le fils. Mais entre le fils et le père, c'est logique. Mais moi, je pense que le père, justement... parce que c'est bon, à travers d'une vitre, on voit. Mais le père a dû lui mettre un cadre limitatif. Moi, à mon avis... oui. Oui, mais je pense que justement, malheureusement, ça doit être le... Moi, je pense qu'il y a eu un cadre mais trop rigide, qui n'a pas pris en compte la personnalité. Parce que, bon, une vie, dès l'instant où il y a un cadre, il y a quand même des limites. Alors, c'est comme si Marc avait pu voir, effectivement, à l'extérieur, mais je pense qu'il a vu au travers du prisme donc identificatoire du père, du schéma du père. Et donc c'est ce qu'on appelle un faux self. C'est-à-dire que Marc est vitrillé par schéma identificatoire. Mais effectivement, sa personnalité, donc vrai self, a certainement été réduite. Donc on a là un profil quand même de père castrateur, et certainement au niveau du fantasme, un père qui est perçu comme lui-même limité. Alors, on n'a pas le temps de tout voir. Au travers donc de ces déductions circonstantives, on a dit donc quelle est l'origine donc de la névrose d'échec de Marc. Je crois qu'on vient de le dire. Vous voulez prendre la parole, Xavier ?
Je pense qu'on peut dire qu'il est sous, on va dire, sous l'effet de, on va dire, d'une complète infériorité qui vient de l'attitude de son père.
Il ne faut pas qu'il dépasse le père.
Oui, en fait, oui, son père l'a réduit, l'a limité. Et c'est effectivement ce qu'il a mis, donc, on va dire, en situation d'échec.
Oui, et donc, alors, si on le prend en généalogie.
Oui, j'allais rajouter échec d'ailleurs aussi affectif, puisqu'il est question de divorce. C'est-à-dire qu'on voit effectivement que ça va limiter l'individu, aussi bien au niveau affectif qu'au niveau social. Alors, au niveau, on va dire, au niveau donc généalogique. Ce qui veut dire que si Joseph lui-même a eu cette attitude inconsciente et qu'il l'avait mise en place par identification lui-même donc à son propre père qui avait eu le même comportement. Donc si on a de donner, on va dire, une identité à cette problématique familiale, c'est-à-dire que donc ce symptôme transgénérationnel, puisque c'est ce qu'il va falloir rechercher, est une névrose d'échec. Non, c'est pas forcément un échec, mais là on voit que Marc lui le vit comme un échec.
Oui, parce que c'est pas son désir, oui, en fait, voilà. c'est une identification quelque part au père.
Oui, il aurait pu avoir une toute autre profession et le vivre beaucoup plus en échec. On va dire une profession peut-être plus intellectuelle. Mais tout va dépendre de la perception que l'individu va en avoir.
C'est sûrement pas un vitrier heureux. Effectivement, voilà. Vous avez raison de dire ça. C'est-à-dire que si le vitrier est heureux, de toute façon, il ne viendrait pas nous voir s'il était heureux. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce schéma-là ? Ce n'est pas la profession qui est à remettre en cause, hein, mais c'est la façon dont le patient va se positionner donc, au niveau du focus. Donc, on pourrait dire qu'il faut donner les moyens aux patients, comme le disait Lacan, c'est pour lui-même.
Oui, il va falloir.
Oui, mais c'est très bien ce que dit Luc Bisse, qu'on retrouve comme invariant au niveau des deux prénoms, c'est-à-dire qu'il y a osé dans Josette et dans Joseph. Effectivement, il faut le pousser à oser, à s'autoriser de lui-même. Alors, Marcel va nous appeler la confusion.
Pour que le patient trouve une solution dans cette problématique, il va lui falloir sortir du cadre.
C'est très bien, parce qu'en fait, c'est tout à fait ça. On est pris par l'heure. Peut-être toutes les personnes qui sont exprimées, tu pourrais peut-être leur distribuer de tes dessins. Et des tas de personnes qui sont exprimées, qui étaient courageux, et dites oui, vous avez raison. Des personnes qui se sont autorisées à parler. Tu feras la distribution, ça t'amuse pas?
Ah bah oui, il va vous le dédicacer, bien sûr. Merci à tous, merci pour votre patience. Xavier, je suis désolée, j'ai été en dessous de tout. Et on espère que ça vous aura permis de supporter donc cet intermède de façon pas trop désagréable. Merci, puis peut-être à tout à l'heure.